1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann avec vous pour la toute dernière émission Le Grand Tout de la saison. On va passer quelques moments avec Sébastien Barrier. On l'a connu dans la peau de Ronan Tablantec, Marat Breton. Il revient à Rennes pendant les tombées de la nuit pour nous présenter son spectacle. Nous camperons ici à voir à trois reprises pendant le festival. Et puis tout à l'heure, c'est Nadia qui nous propose une rencontre qu'elle a pu faire aujourd'hui avec Mélanie Chartreux, qui est musicienne et collaboratrice artistique du chorégraphe Pierre Rigal. Elle a rencontré aussi Maë Nérol, danseuse, et Gwenaël Drapeau, le musicien qui a composé la partition pour le spectacle Ronde, à retrouver au parc du Tabor, Carré du Guesclin, vendredi et samedi soir. On part directement auprès du van bateau de Sébastien Barrier. Bonne émission à toutes et à tous. Sébastien Barrier est parmi nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Il est dans les studios de Canal B. Vous le retrouverez à Rennes pour ce spectacle. Nous camperons ici, montré trois fois à partir de ce vendredi, samedi et dimanche aussi. Tu vas te balader du côté du métro Groschen, quartier Maurepas, dans le même quartier, près de l'école de Tréguin, au Jardin du Bonheur, si c'est pas beau. Et puis pour terminer, Place Hoche dimanche pour ce spectacle où tu viens... J'allais dire accompagné d'un van bateau. Bon, c'est pas accompagné, c'est tu l'utilises pour te déplacer en fait.
Il me transporte et je le conduis. C'est mon petit camion. Alors, récemment, un ami circassien du Cirque Trotola m'a dit on dit pas camion pour désigner un fourgon. Il m'a dit un avant-bras n'est pas une cuisse, donc c'est un fourgon. C'est un van. Il est noir et moi je l'appelle parfois mon corbillard en fonction de mon humeur ou de mes humeurs. Mais il contient une partie de ma petite vie, pas mal d'objets, tout mon matériel de son qui est rangé précieusement à l'intérieur, et il constitue le fond de scène, le décor du spectacle et le moyen techniquement d'entrer en scène, d'arriver devant le public, puisque sans trop spoiler le début, c'est quand même ainsi que les choses commencent dans Nous Camperons Ici.
Et sur Nous Camperons Ici et sur ce van, il y a déjà des choses écrites, un texte.
Alors à une
peut-être
époque,
à une époque,
je le lardais de coups de griffe au Posca, donc il était recouvert d'écriture qui était ou bien des bouts des textes des chansons que j'allais chanter après, ou bien des petites notes comme on en prendrait dans un carnet en passant quelques heures à une terrasse à observer le monde qui défile devant nous. Et puis ça permettait, pendant que je chante ou que je parle, à certaines personnes de s'évader et plutôt que de m'écouter ou de me regarder, d'aller se promener dans cette espèce de métatexte foutraque là qui était derrière moi. Puis l'an dernier, je jouais à Béziers, il faisait une chaleur intolérable et j'avais la flemme de passer deux heures à écrire sur mon camion. Et puis je me suis dit aussi que pour ce projet-là, j'avais envie d'enlever des choses plutôt que d'en rajouter. Donc j'ai arrêté d'écrire sur le camion. Et quand j'arrive, il est noir, noir, noir. Alors il est noir et brillant quand toutefois les arrêtés préfectoraux par rapport à l'usage de l'eau nous permettent encore de nettoyer nos véhicules, ce qui n'est pas une priorité hein, évidemment. Mais je parle de la propreté du camion parce que plus il est propre et plus il reflète les gens en fait. Donc les gens se voient dedans, des têtes un peu déformées. Quand il y a des arbres autour du lieu de spectacle, on voit le feuillage aussi là un peu flouté qui bouge sur la carrosserie. On dirait une espèce de travail de mapping que même spectaculaire ne parviendrait pas à réaliser tellement c'est aléatoire et artisanal. Et il est vierge du coup de toute inscription, mais pendant le récit, il arrive parfois qu'un mot ou deux finissent par se coller à la carrosserie.
Donc voilà, vous les verrez ces mots peut-être, vous les entendrez en tout cas c'est sûr,
puisque
tu seras là pour les porter, et pas seulement dit les mots, chanter aussi avec ce qu'on présente comme un tour de chant rock et bavard, et ça c'est normal qu'il soit bavard ce tour-là, et en bivouac, c'est-à-dire que voilà, tu viens poser ton camp comme ça, et puis tu partiras 2, 3, 4 jours après. Justement, ce nom-là, Nous Camperons Ici, il vient d'où ? Du western, d'un camp scout, ou des jeux d'enfants qui s'amusent à construire des cabanes dans les sous-bois ?
Alors certainement pas d'un camp de scout d'Europe, mais bon, les scouts sont jusqu'à un certain âge des enfants, et l'enfance a évidemment à voir avec tout cela, en tout cas le plaisir de camper, le plaisir de monter un bivouac, la jubilation de dormir à l'ombre d'une toile tendu entre deux arbres avec ses parents, par exemple, ou même d'aller au camping, plus simplement, elle est bien sûr liée à l'enfance. Et tu l'as dit, le western. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette phrase, je l'ai entendue à plusieurs reprises dans les westerns quand j'étais gamin. Alors, je suis incapable de m'en rappeler précisément. Quand je le dis aux gens, il y a des gens qui ne voient pas du tout la référence. Pour moi, c'est évident que dans presque tous les westerns, il y a un moment où les cow-boys, après une longue, alors dans une des chansons, je parle d'une fuite ou d'une errance, d'une espèce de procession, là, il y a un moment où ils s'arrêtent en fin de journée, harassés, fourbus, épuisés, qu'il y en a un qui dit, celui qui est en tête de file, qui dit aux autres, nous camperons ici, et c'est le signal qu'il faut s'arrêter pour se reposer, pour se remettre, pour faire le point, pour essayer de comprendre d'où on vient, comprendre d'où on va, parce que pour pouvoir repartir, il faut bien s'arrêter, reprendre des forces, prendre soin de nous. Donc ouais, elle vient plutôt des westerns, nous camperons ici.
Avec une formule qui est à la fois un ordre et puis aussi un espoir. Parce qu'il va se passer des choses. Après qu'on aura décidé de descendre du cheval et qu'on posera le camp, on ne sait pas ce qui se passera après.
Sans doute qu'on ne verra plus la suite du voyage de la même façon dès lors qu'on l'a interrompu. Encore une fois, provoquer un arrêt favorise peut-être pas un nouveau, mais un autre départ. Il faut aussi laisser passer la nuit, cette période au cours de laquelle, j'imagine qu'on peut plus avancer, les dangers sont trop nombreux pour ces cow-boys, les fauves sont là et guettent, on peut plus s'orienter. Donc cette nuit, il faut la laisser passer sur nous pour qu'elle nous rafraîchisse, pour qu'elle nous repose, parce qu'on ne peut pas forcément s'affronter à ces heures sombres. Et puis, quand le soleil, ou en tout cas la lumière reviendra, nous pourrons repartir. Donc ouais, nous camperons ici. Ouais.
Repartir, c'est ce que tu fais constamment, en fait, depuis plus de 20 ans, avec la naissance de personnages, la mort de ces mêmes personnages. On se souvient évidemment à Rennes de Ronan de la Blantec, ce marin breton qui avait tout d'une caricature de marin, mais en fait il avait beaucoup plus que ça, parce qu'il était aussi expert au fouet, et ça c'est pas tous les marins qui sont experts au fouet. Sur Nous camperons ici, tu as un conseiller en nœud.
Alors, sur le dossier, il y a un conseiller en eux, mais en fait, qui ne nous a pas vraiment conseillé en eux. Mais il se trouve que il y a une modeste installation qui fait du coup, en termes de modeste scénographie, une espèce de bivouac. Les gens, c'est ce qu'ils voient, un camion, puis qui s'augmente d'une petite toile, justement, et qui donne une allure de bivouac à l'ensemble. Et moi, j'habite sur l'île de Groix, maintenant, donc au contact de pas mal de marins, de mateloteurs. J'ai toujours adoré faire des nœuds avec des boutes. C'est une des premières choses que j'ai, non pas transmise, mais mise dans les pattes de mon fils Abel quand il était tout petit, et il a très vite inventé des nœuds qui n'existent pas, qui sont peut-être pas très fiables au niveau sécurité, mais qui étaient quand même les siens. Et les nœuds, c'est des chemins aussi. Quand on regarde les nœuds qu'un gamin de 3 ans a fait, on voit une espèce de chemin, de dessin, enfin, tout ça me fascine. Et puis j'ai besoin des nœuds, moi, pour cette installation. J'ai besoin des nœuds dans mon camion pour que le matériel, même quand je prends un rond-point un peu trop vite, n'aille pas verser de l'autre côté. Et il y avait du coup un conseiller en nœuds, mais en fait il nous a pas vraiment conseillé en nœuds, mais il y a des nœuds dans ce spectacle, il y a des nœuds dans nos cerveaux, il y a des nœuds dans nos vies, et notre monde d'aujourd'hui est un gros sac de nœuds qu'on essaye de démêler, mais ce ne sera pas si simple.
Ce ne sera pas si simple. Alors, est-ce que justement le fait d'être allé habiter à Groix fait que tu es devenu Ronan de la Blantec le mort, puisque tu es presque devenu marin breton? Alors évidemment on n'est pas marin parce qu'on habite sur une île, mais est-ce qu'il y a ça, ou est-ce qu'il y a aussi cette île qui est finalement une sorte de refuge, comme peut être le bivouac de Nous comprendre ici?
Oui, tout à fait. Le choix de l'insularité, même si c'était plutôt une proposition de ma compagne, c'était pas vraiment mon idée. Moi, j'allais à Groix depuis très longtemps et je craignais qu'en m'y installant, tout ce qui me paraissait magique, exceptionnel, ne le soit plus. Je craignais de me lasser des gens que je voyais 15 jours par an. Je craignais surtout qu'ils se lassent de moi. Donc, j'étais un peu réticent à cette proposition avant de finir par accepter, puisqu'on y vit depuis 4 ans. Et c'est arrivé à un moment, c'est-à-dire peu de temps après le Covid, où au niveau tournée, au niveau spectacle, au niveau projet, les choses étaient vraiment compliquées. Donc, moi, je tournais presque plus. Notre fils était tout petit, donc c'était aussi un moment de ma vie où il fallait que je ralentisse, que je me pose et que je regarde un peu plus ce qu'il y avait juste sous mon nez, en arrêtant de fuir à droite à gauche. Au même moment, j'ai perdu le permis de conduire, ce à quoi on peut survivre sur une île aussi petite que l'île de Groix. Mais ça, tout ça mis ensemble, ça a été une espèce de coup de frein quand même, professionnel, de coup de frein dans ma vie, de ralentissement et une espèce de retour un peu brutal à la sédentarité à laquelle j'avais tenté d'échapper quand même, et avec quelle énergie depuis 25 ans de tourner, puisque moi je ne faisais que partir pour partir, et dès que j'arrivais quelque part pour y jouer, je n'avais qu'une envie et qu'une idée en tête, c'était de partir encore. Donc sans doute qu'avec l'âge, on est plus enclin à se poser un peu. Sans doute qu'avec l'âge, le voyage nous éprouve un peu plus, mais peut-être aussi qu'avec l'âge, on finit, ou je finis en tout cas pour ma part, par comprendre que s'arrêter un peu plus, regarder un peu plus où on est, et bien dispense forcément de poursuivre une espèce de course effrénée. Alors, Tablantec, c'était un personnage, j'avais 25 ans, j'ai adoré faire vivre ce personnage et ce spectacle pendant 10 ans. Il y a vraiment quelque chose de commun aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec ce projet autour d'un véhicule encore, et d'un regard connecté à tout ce qui entoure le moment du spectacle. C'est un gamin qui passe, une dame qui passe, un vol d'oiseau, une sirène, une cloche au loin, des branches qui bougent, des manifestations des spectateurs et spectatrices présents. Tout ça, c'est une partie de ce que je récolte urgemment pour en faire un bout du texte. Et ça, c'est ce que faisait Tablantec aussi, ou ce que je faisais avec ce personnage Tablantec. Mais lui était connu, enfin ce personnage était connu pour son mordant, certains disaient son cynisme, c'est pas un mot que j'employais moi, mais son insolence, son caractère un peu provocateur. Là aussi, le temps a fait son travail et il y a quelque chose aujourd'hui qui fait que cette espèce d'acuité, de manière de regarder tout ce qui entoure le spectacle et de pouvoir d'être capable d'en parler tout de suite est beaucoup plus efficace, mais parce que c'est beaucoup plus doux, parce que c'est beaucoup plus tendre et qu'en même temps, la douceur et la tendresse interdisent aussi que ça devienne beaucoup plus saillant, mordant, puissant. Et en cela, j'aime pas vieillir, hein, je suis pas le seul, évidemment. Mais en cela, je trouve que l'expérience, le temps qui passe et le vieillissement ont vraiment du bon. Donc il s'agit pas du tout de revenir dans la rue aujourd'hui en envoyant tout chier comme c'était le cas il y a 25 ans. Et pour rien au monde, d'ailleurs, je ne voudrais continuer à faire ça. Mais je dis pas que je suis devenu sage et gentil. Non, non, la colère n'a fait que grandir depuis. Le doute et le désespoir également, mais qu'il y a une espèce d'équilibre peut-être qui s'est trouvé.
Tu parles de douceur dans Nous comprenons ici. Il y en a avec peut-être des souvenirs de ce travail que tu as pu faire avec ce spectacle Gus, plutôt adressé au jeune public. Est-ce que ça aussi, ça fait que tu regardes un petit peu différemment le monde?
Mais disons que tous ces spectacles qui, comme tu le rappelles, j'allais dire gentiment, mais c'est agréable à entendre parce que pour moi, il n'y a pas vraiment. J'ai du mal à imaginer ça comme une continuité quand je vois des amis ou des concurrents qui font le même métier que moi, qui alignent 25 spectacles en 25 ans, alors que moi j'en ai fait peut-être 6, 7, 8, 9. Je me dis, ouais, j'ai quand même eu beaucoup de temps libre. Mais néanmoins, c'est vrai que si je regarde ces spectacles qui se sont suivis, enchaînés, qui se sont aussi un peu enchevêtrés, puisqu'il y a toujours un peu d'un spectacle d'avant qui reste dans celui d'après, ben, je me rends compte qu'il y a une forme de voyage aussi, en fait, de chemin, avec des pauses dans ce chemin, avec certains spectacles qui ont moins pris que d'autres, mais avec finalement, j'ai l'impression aujourd'hui que Nous comprenons ici reprend un peu toutes les préoccupations de ce qui ont traversé les spectacles précédents. Et surtout, je vois aussi encore une fois avec un peu, non pas de satisfaction, mais disons que ça pourrait me rassurer que tout ce chemin de 25 ans, 30 ans en fait, n'est pas complètement incohérent. Moi, j'ai quand même l'impression que ma vie est faite de ruptures, de heurts, que les choses n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Et puis parfois, il m'arrive de me retourner, de me dire, mais non, en fait, les heurts et les ruptures, il y en a eu. Mais en fait, tout cela est plutôt cohérent et les choses sont liées entre elles et attachées. Et encore une fois, ce qui est agréable aujourd'hui, c'est de me dire qu'avec Nous comprenons ici, en ce moment, par ailleurs, je joue un spectacle, un hommage à Sleaford Mods, là, que j'ai joué avant-hier dans la Haute-Vienne, qui est un spectacle qui aujourd'hui me ravit, me comble qui est devenu très politique. C'est difficile de faire un hommage à Sleaford Mods en ne l'étant pas un peu politique, mais j'ai l'impression en tout cas que ces spectacles-là arrivent au bon moment et qu'ils portent toute l'expérience accumulée, toutes les leçons aussi et toutes les fragilités même aussi cumulées de tout ce que j'ai fait avant. Et ça, c'est très agréable. Et après, avec Nous comprenons ici, il y a un choix de retourner à la rue, même si j'ai pas arrêté de faire des choses en extérieur, mais pendant des années, les spectacles comme Gus, Kill Charcoal, Dear Jason, Dear Andrew pour Sleaford Mods se jouent au plateau. Ça m'empêche pas de faire des performances régulièrement au cul de mon camion dans la rue de temps en temps. Mais là, choisir de faire un spectacle Nous comprenons ici, de dire je vais le proposer à un réseau qui est le réseau des arts de la rue, de l'espace public, c'est un vrai choix aussi de retourner vers un public qu'on croise peut-être, dans mon cas en tout cas, moi qui n'ai pas la faculté de remplir, enfin la faculté, je ne suis pas assez connu pour remplir des salles. J'en ai fait des salles ces derniers hivers là, à moitié vide ou pleine, encore quand elle ne l'était qu'à moitié, j'étais plutôt content. Et moi, je me suis dit, merde, le public, où est-ce qu'il est? Ben, le public, il est quand même dehors. J'ai une histoire dans la rue, je voudrais y retourner. Et on croise tout le monde, encore une fois, y compris, naturellement, les gamins. Puisque tu en parlais en faisant référence à ce spectacle jeune public qui s'appelait Gus sur ce chat mélancolique et dépressif et agressif. Et aujourd'hui, retrouver les gosses dans la rue, les gosses, il y a 25 ans, quand on faisait des spectacles de rue, c'était souvent une punition, quoi. On disait, mais putain, pourquoi on nous a mis des gamins? On avait l'impression d'être mal reconnus. C'était presque nous faire un peu insulte que de laisser des gamins se glisser dans nos publics. Aujourd'hui, moi, la présence des enfants, surtout quand ils ont peu ou prou, mais en même temps c'est peut-être pas si important, mais l'âge du mien, surtout à un moment où je suis en tournée, donc séparé du mien, pour ne pas dire privé du mien, pendant, c'est-à-dire qu'il me manque évidemment, donc quand je vois un gamin qui lui ressemble ou un gamin qui a 50 plus, je me projette tout de suite en imaginant à quoi ressemblera Abel, le mien, quand il aura l'âge du gamin qui est en face de moi. Donc il y a une douceur en effet du papa aussi, qui n'était pas là à l'époque de Tablantec, qui s'était bien juré de ne pas avoir d'enfants. Donc c'était le bon moment pour y retourner. Et puis l'espace public, les gens sont là. Peut-être que dans quelques mois, la France sera coupée en deux après une élection dramatique. Peut-être pas, mais quelle que soit l'issue, ça va être compliqué. On sent bien que c'est compliqué. C'est le sac de nœuds qu'on évoquait. Et dans la rue, on aura encore des gens qui en ont... On joue pas dans la rue que pour des gens qui pensent comme nous. Enfin, je ne joue pas dans la rue que pour des gens qui pensent comme moi. Or, il faudrait bien que je continue à parler aux autres. Et je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui pour les arts dans l'espace public et le théâtre de rue qui devient encore plus important que ce qu'il a pu être jusque-là. À un moment, j'ai l'impression que les arts de la rue sont aussi un peu perdus dans une fonction divertissante. Et j'ai fait ma part du bazar. Là, je pense qu'on va revenir à quelque chose de... Je dis pas qu'il faut aller dans la rue de manière politique pour clamer aux gens qui votent pas comme moi que ce sont que des cons, que des bourrins ou que des fachos. Ça marchera pas. Je pense qu'il y a encore un terrain où on pourra se rencontrer. Et il y a... C'est peut-être très naïf, ce que je dis. Hein. Mais il y a sans doute un travail à mener à cet endroit-là. Et c'est pour ça aussi que je suis content d'y retourner à la rue.
On fait une pause musicale avec non pas Sleaford Mods, comme vous l'attendiez, hein, et toutes et tous, mais non. Sébastien nous propose d'écouter une rappeuse accompagnée d'un groupe de musiciens qui oscillent entre rock et noise, zone libre.
Ben c'est Cazet. J'ai vu il y a très longtemps, alors que je jouais Tablantec à Toulouse, et je suis rentré dans la salle des syndicats où se tenait ce festival là de Magie de Cherfi et de la bande de Zebda, là, et j'ai vu quelqu'un sur scène chantait, je suis resté pétrifié en disant c'est qui ce mec? Bon, il se trouve que c'était une femme, mais j'avais mal regardé et je n'ai cessé depuis de l'écouter. Et alors au-delà de son flow, de la musicalité de sa parole, il y a quelque chose sur l'écriture aussi qui est assez troublant. Et Cazet m'a pas mal aidé à me décider un jour à me mettre à chanter à mon tour.
J'ai du mal à aimer, à trouver mes mots, et le sommeil s'en prend de comprimés. Je suis inanimé, énormément abîmé, probablement mort-né, des gens vomés. Je n'ai le goût de rien, mais je sais le mimer. Et mon entrain n'est qu'un écran de fumée. J'ai toujours su très bien jouer à l'humain, manier les banalités et les lieux communs. Mon prénom a été gommé du roman. J'ignore tout simplement où, quand et comment, et pourquoi je me suis sur moi-même renfermé. Endormi apparemment pour un moment. Je ne suis ni exigeant, ni borné, ni sournois, ni attachant, ni acharné, ni content, ni méchant, ni charmant. Seulement peu concerné et désincarné, comme à pas grand chose d'être interné, ou l'invité d'honneur de mon propre enterrement. Détourné du monde, seul et épargné par ses petits bonheurs ou ses grands tourments. J'ai beau prendre le problème et le retourner, j'ai effectué un très gros travail sur moi. J'ai occupé la longueur de mes journées. Je ne ressens ni l'envie, ni l'émoi, ni la peur, ni l'ennui, ni l'effroi, ni la lenteur des heures, ni le compteur des mois. Pas une seule fois le poids des années, même une bonne déprime m'aurait bien dépanné. Mais il n'y a que mon crâne noyé dans le néant et mon corps broyé par un trou béant. Alors dites-moi comment être foudroyé, sortir souriant et l'art, et puis débrailler, bâtir un foyer, y être choyé, pouvoir pas bavarder, sans bafouiller, être le bon voisin ou le bon employé, le bon mari, le bon ami à côtoyer, ou ébloui par la nuit et ses néons, le vent, la pluie, le soleil et ses rayons. Et j'ai essayé de crier mon tourbillon, mais ma voix n'a pas pu ôter son baillon. J'ai un bataillon d'histoires à vous détailler, de petits soirs sans festin ni cotillon, de gosses que je ne verrai jamais brailler, en se réclamant être de mon sillon. Donc si vous me voyez, qui que vous soyez, pitié, ne tentez pas de me réveiller, d'être bienveillant, de vous apitoyer, car les morts vivants ne savent pas s'émerveiller.
Sébastien Barrier qui tape le rythme sur la table au studio de Canal B. Ici, on est dans l'émission Le Grand Tout, deuxième émission spéciale Tombée de la Nuit. Vous retrouvez Sébastien Barrier pour Nous Comprons ici à trois reprises, je l'ai dit, mais je le répète, ce vendredi, ça sera du côté de Maurepas, samedi aussi, et puis dimanche, Place Soch, un bivouac pas improvisé, hein, parce que tu le tournes depuis quelques temps quand même, donc tu dois savoir comment installer les choses pour... faire profiter au maximum le public qui sera présent. On vous faisait entendre Cazet. Il y a eu cette déclaration d'amour à Andrew et Jason des Stepford Mods, ce groupe nécessaire dans une Grande-Bretagne peut-être encore un peu plus mal en point que la France, mais en tout cas rien ne va bien nulle part, donc pourquoi pas. Mais un groupe qui a une parole politique très forte, qui se bat pour la sauvegarde de ce qui est public encore en Angleterre, c'est-à-dire plus grand chose. En fait, tout va à volo, tout a été vendu. Qu'est-ce qui, à part ce message politique très fort, qu'est-ce qui t'a directement convaincu du génie de Stepford Mods?
Je l'avais entendu dans quelques soirées. C'est l'entrée en matière du récit, du spectacle que je fais sur eux. Donc là, je vais faire vraiment une version très courte, mais. Je les avais entendus dans quelques soirées, de loin, je trouvais ça étrange, je connaissais rien à l'électro, encore moins à la musique post-punk électro, j'entendais cette voix étrange, là, dont j'avais l'impression qu'elle me parlait, en fait, à moi. Mais je comprenais pas un mot de ce qu'il disait, donc j'avais aucune, bon, vu les contextes, par exemple, une énorme fête à Douarnenez, au cours de laquelle la copine chez qui on est, nommée du Stepford Mods pendant 7 heures et interdit quiconque de toucher l'ordi pour se risquer à mettre autre chose. Donc, connaissant la femme en question, je me doutais bien que c'était pas de la musique néo-nazie, mais j'avais aucune idée de ce qu'il disait, juste cette impression qu'il me parlait à moi et qu'il s'en prenait vraiment à moi, qu'il me reprochait quelque chose. Et je pense que il y avait peut-être de quoi me reprocher des trucs. Donc il y avait ça. Donc j'entendais ça à droite à gauche, me tenais plutôt à l'écart parce que je me disais bon, je veux pas en savoir plus. Et puis un jour, j'ai fini par prendre mon téléphone, taper leur nom sur mon téléphone, et là j'ai découvert une première vidéo filmée à la BBC d'un morceau qui s'appelle Job Seeker sur le chômage en Angleterre, dans lequel d'ailleurs le chanteur et auteur Jason Williamson relate sa propre expérience, puisque quelques années plus tôt, il était conseiller dans un pôle emploi, un job center de Nottingham, au service des réclamations. Et dans cette chanson, ce que je ne comprends pas du tout en découvrant cette vidéo, il propose une mise en abîme où un type l'appelle pour dire « Monsieur Williamson, ça fait 3 mois que vous avez rien branlé, il faut bosser, sinon c'est fini pour vous. » Et lui, il dit « Je veux pas travailler, plutôt mourir que travailler. » Ça pourrait paraître un peu simple comme ça à des gens du MEDEF qui nous écouteraient, j'espère qu'il y en a. Mais évidemment, la critique, elle est poétique, elle est sociale, elle parle aussi de psychiatrie, elle parle de souffrance, de douleur. Bon, voilà. Mais donc, il lui dit « Je veux pas travailler. » Mais le jour où je mets cette vidéo avec mon petit chat sur la route, alors que je revenais de l'île d'Ouessant et que je roulais entre Brest et Lorient, il n'a même pas fallu qu'il commence à bouger pour que tout s'effondre en moi, mais vraiment tout. C'est-à-dire que rien que de voir ces deux corps, avant même que Andrew n'envoie la musique, avant même que Jason ne commence à beugler, à chanter, à vociférer, à prosodier, et avec quel génie, qui est pas vraiment du génie en fait, hein, qui a une énergie liée à son histoire, ses doutes, ses addictions à l'époque et sa colère. Avant tout cela, déjà, c'est ce que je dis dans le spectacle, tout s'était effondré parce que déjà, là, je crois que d'abord, ce qui m'a heurté, c'est que deux corps, deux présences, deux énergies aussi différentes puissent partager un espace aussi petit que cette scène-là sur laquelle la BBC les filmait. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement politique. C'est comment deux hommes que tout semble opposé peuvent porter un projet ensemble. C'est extrêmement rassurant aussi. Et ça venait questionner au fond de moi des espèces de vieilles rengaines de comédiens. Je m'étais parfois inquiété sur scène qu'on voit plus l'autre que moi. Enfin, finalement, ça touchait en deux secondes et demie avant même qu'il ne chante à des choses extrêmement profondes, pour moi complexes et douloureuses et un peu culpabilisantes aussi. Puis après, il y a eu sept ans d'histoire avec eux, sept ans au cours desquels j'aurais beaucoup écrit sur Messenger. Je les ai harcelés sur Messenger en leur parlant de poésie, de pathologie, de guérison, de soins, de dope, de famille, d'amour, de souffrance, d'art. Une longue conversation à laquelle ils n'ont que très peu répondu, mais les quelques réponses éparses, les pouces par-ci par-là, étaient déjà suffisants pour donner un sens à ma vie qui n'en avait plus. Et puis après, j'ai commencé à chanter leurs morceaux, alors que j'étais certain que j'y arriverais jamais. Et puis là, je me suis rendu compte, avec le temps, que finalement m'amuser à essayer de reprendre ne serait-ce qu'un couplet d'un morceau de Sleep for Mods, c'était comme faire un stage de chant en Ardèche pendant 3 jours sur la respiration, commencer à me dire putain mais Andrew le musicien quand même sur les premiers albums il savait pas faire de musique quoi, c'est pas possible, c'est d'une simplicité qui vire à l'insolence, mais c'est pas parce qu'il est insolent, il est pas insolent, c'est parce qu'au début il était pas, enfin. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais. J'avais l'impression qu'il me disait ça, Andrew. Ben, essaye toi aussi, là, fous-nous la paix. Essaye, si moi j'ai essayé, tu peux essayer. Tes neveux, ils font de la musique. Pourquoi pas toi? Puis j'ai commencé sur des logiciels de musique. Et puis, en parallèle, je chantais un peu. Et puis me revenait la découverte à 11 ans de Renaud et cette claque dans la gueule que j'ai pris à 11 ans en me rendant compte qu'on pouvait, dans ce monde, occuper cette place, raconter en chronique nos vies pour les rendre peut-être plus supportables. Et tout ça s'est mélangé, et puis un vieux désir de chanter, et puis des expériences de chant qu'ont traversé les derniers spectacles, comme Chunky Charcoal, Gus, ou le spectacle sur le vin aussi, dans lequel je chantouillais un peu. Et puis surtout, ouais, un rêve d'enfant qui était, comme pas mal d'enfants en fait, de « moi je veux être chanteur, le reste m'intéresse pas ». J'avais passé 30 ans à parler dans le vide pour noyer le poisson, mais il était temps que je m'y mette. Et grâce à Sleep for Mods, c'était comme une espèce de coup de pied dans le cul, mais comme une espèce de formation aussi en musique, en chant, en écriture même, et ben, en respiration. Pour chanter Sleep for Mods, il faut respirer. Sinon, on ne peut pas chanter Sleep for Mods. J'ai appris à respirer. Lui, le chanteur, a tout arrêté. La coke, le tabac, l'alcool, le cannabis. Et donc, c'est aussi... J'y parviens pas encore, pour ce qui concerne le tabac, en tout cas pour moi. Mais c'était aussi une espèce d'invitation peut-être à faire une pause, là aussi, dans certains excès. Et tout ça m'a fait un bien fou. Et aujourd'hui, dans Nous Comprenons Ici, il n'y a plus Sleep for Mods. Ils sont là partout en moi et tout. Mes morceaux ne ressemblent pas vraiment... Parfois un peu par l'énergie, les outils, les synthés modulaires et les machines électroniques utilisées, sans doute un peu. Mais je chante mes chansons en français et tout ce long travail, la douloureux d'émancipation, je leur dois en partie à eux, mais aussi à Cazet quelque part et à Renaud aussi.
Donc ce campement autour duquel tu vas venir parler, chanter, il est constitué finalement d'accord de ce van bateau, de ce fourgon, pas de ce camion, pardon, mais c'est des briques comme ça qui viennent du passé, que tu mets les unes sur les autres en fait. C'est un aboutissement de tout ça en fait, Nous Comprenons Ici, de tout ce que tu as fait avant.
C'est sûrement pas un aboutissement, mais c'est une continuité en tout cas. Un aboutissement, ce serait un moment final, ça.
Et là, non, t'es pas prêt à ça.
Mais c'est une continuité, oui, c'est un empilement de toutes les préoccupations, les manies, les plaisirs, ce plaisir du bivouac, ce plaisir de bidouiller avec des bouts et de faire des nœuds, et de me prendre pour un marin en ayant les pieds au sec. Et puis une espèce de, dans Nous Comprenons Ici, il y a une vraie intention de récit autour d'un thème pour une fois. C'est pas la première fois en fait que je tricote des spectacles autour d'un thème. Là, le thème, alors j'essaie de plus le dire aux gens, parce qu'avant je leur ai expliqué le thème de peur qu'ils ne le comprennent pas, mais il y a quand même tout, et les chansons sont écrites aussi autour de ce thème là il y a vraiment toute une espèce d'intention de parler du fait de s'arrêter, quoi. On a parlé au début, mais
l'an zéro un petit peu GB, on s'arrête, on réfléchit et c'est pas
voilà,
triste,
on s'arrête, on arrête de courir, on arrête de fuir, c'est tout sauf une leçon que je veux donner aux gens. Ça me concerne d'abord moi et évidemment, mais il y a, ouais, il y a cette, donc après toute ma manière de regarder ce qui se passe autour, les gens qui passent encore une fois, et la vie ordinaire qui, quand on va jouer place Hoche à 17h dimanche, il y a plein de gens qui vont passer par là, qui sauront pas que je suis là, évidemment, qui peut-être s'arrêteront une minute, deux minutes, c'est le privilège des spectateurs de rue de pouvoir repartir quand ils le veulent, peut-être qu'ils resteront, peut-être qu'ils s'arrêteront pas, peut-être qu'on aura des gens qui sont en début de vacances, qui traversent la ville avant de se barrer sur les plages, etc., ma manière de m'adresser à eux, en tout cas, toujours sera au fond animée, motivée par cette question de s'arrêter. Donc récupérer les spectateurs qui n'avaient pas prévu d'interrompre leur parcours à ce moment-là pour qu'ils restent avec moi, avec nous, c'est évidemment typiquement leur proposer ou leur imposer presque une pause, mais tout est construit autour de cette idée-là, de cette fixation-là, s'arrêter un peu.
S'arrêter un peu et où tu veux, parce qu'il est doté d'un système électrique autonome, ce van, donc ça te permet de jouer partout. Alors, tu peux le faire, est-ce que tu le fais pour autant? Tu vas nous le dire. Il y a des endroits vraiment qui te restent en mémoire où tu pensais pas forcément t'arrêter, c'était pas prévu dans une tournée proposée par le Bureau des Paroles, c'est quelque chose qui s'est passé de manière impromptue, tu l'as fait?
Alors il m'arrive d'échapper au contrôle du Bureau des Paroles, en accord évidemment avec eux, mais et d'aller faire des petites formes à droite à gauche pour des tout petits lieux, des tout petits moments. L'avantage effectivement d'avoir ce système électrique embarqué là, qui est une espèce de grosse batterie lithium, le lithium étant à d'autres endroits de ma vie un partenaire quotidien en plus, me permet effectivement d'aller me poser sur une plage, d'aller me poser en fait à n'importe où, d'être complètement autonome. La sono, elle est fixée sur le camion, donc je peux. J'ai une chanson qui parle des aires d'autoroute, puisqu'on parle de s'arrêter. Je l'ai pas encore chantée sur une aire d'autoroute, mais techniquement, une fois que les enceintes sont installées, je peux rouler avec. Mais ça veut dire qu'en arrivant sur une aire d'autoroute, je peux en deux minutes être prêt à chanter cette chanson. Il faut que je le fasse absolument. Je l'ai pas encore fait, mais il faut que je chante ma chanson sur les aires d'autoroute, sur une aire d'autoroute, et que je reparte comme s'il ne s'était rien passé. Et l'idée, c'était effectivement d'avoir un outil qui me permette de jouer n'importe où, n'importe quand. Alors j'avoue que j'ai un peu moins d'audace qu'à l'époque de Tablantec. Je me suis pas encore jeté à faire la manche. Les morceaux, ils sont assez dynamiques. Quand ça joue, c'est un peu fort. Il y a quelques gros mots, évidemment, qui émaillent le texte. Bon, quand il y a des gamins tout petits devant moi, j'arrive comme un bègue que j'étais, qui voit arriver un mot dans son cerveau, qui bientôt va se glisser dans une phrase et se dresser comme un obstacle devant lui. Les personnes bègues, en général, ont cette capacité, cette gymnastique, cette vélocité de chasser le mot tout en continuant à parler pour le remplacer tout en parlant par un mot moins périlleux à prononcer. De la même manière, en chantant, s'il y a un gamin de 4 ans devant moi et qu'il n'y a pas plein de gros mots, mais il y a un sac à merde, un connard, je vais pas hurler un connard à la gueule au visage d'un enfant de 5 ans, et je le remplacerai par un putain sera remplacé par purée. Ben, ceci pour dire quand même que chanter n'importe où, n'importe quand, devant des gens qui n'ont pas choisi de chanter, j'ai toujours un peu la crainte que des gens puissent me dire après, mec, tu viens, nous on est là en vacances sur la plage et tu nous hurles tes chansons qui parlent de la bipolarité, de la dépression ou de l'arrêt du tabac, parce que si on n'arrête pas, on finit par en crever. Nous, nos gamins en 6 ans, ils sont là en maillot de bain. T'es gentil, tu vas faire ça ailleurs. Mais, en tout cas, je peux jouer partout. Et à Groix, chez moi, par exemple, comme j'ai pas de lieu pour répéter, il m'arrive de prendre mon camion, d'aller au sémaphore, qui est presque la pointe ouest de l'île, et de me poser là, et de sortir le matériel et de répéter en pleine nature quand le vent m'y autorise. Et pour moi, pour le travail, pour l'aspiration et pour le plaisir des quelques promeneurs qui passent par là et qui tombent sur ce type devant un camion qui est en train de chanter à tue-tête, c'est quand même forcément une poésie qui est un petit surplus qui est extrêmement agréable.
Un moment alors où se mélange la poésie, le post-punk finalement aussi. Toi aussi, tu es un chanteur post-punk désormais.
Bah, je sais pas, j'aurais bien du mal. J'aimerais bien qu'on me dise ça. Oh, tu es un chanteur post-punk. Moi, je peux pas m'en réclamer. J'en ai presque jamais écouté. Mais c'est comme poésie. Hein, c'est un mot qui est bien trop grand pour moi, que j'aurais jamais utilisé pour qualifier mon travail ou mon écriture. Et ce sont des gens, je crois que c'est à l'époque de Gus ou par là, il y a eu un moment dans ma vie professionnelle où le mot poésie est arrivé des gens qui simplement disaient « Ah, c'est poétique », et c'est un mot qu'on me disait jamais avant. Alors, j'étais là « Ouais, poétique, attention ». Pour moi, encore une fois, c'est un grand mot, quoi. La poésie, les poètes, les hommes et les femmes qui écrivent la poésie, je pense qu'on mène pas exactement la même vie, mais les gens, ils décelaient quelque chose de poétique, donc je disais rien, j'espérais que ce soit pas un malentendu, et aujourd'hui ça revient. Pour autant, moi j'écrirai jamais, je fais une proposition de chanson post-punk à caractère poétique, mais si ça pouvait être ça, si les gens ressentent ça, j'en serais évidemment très heureux.
En tout cas, ces chansons qu'on va entendre dans l'espace public, sur des places, dans des jardins du bonheur ou près d'une église, elles auront une autre vie, ces chansons-là, que en live, en spectacle. Est-ce que tu vas sortir un disque, Sébastien Barrier ?
Peut-être un peu comme ça, s'il y a des gens qui me demandent les morceaux, mais comme ils repartiraient avec une petite affiche, si j'en avais fait, comme un souvenir en fait, quoi. Je pourrais dire un peu vite que je suis pas certain qu'elles aient un intérêt en dehors du moment où elles sont chantées. C'est pas si sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que chanter des chansons en adressant des bribes des paroles à des enfants, au regard d'une vieille dame, au bruissement d'un feuillage dans un arbre, au ciel, aux nuages, à des oiseaux qui passent, encore une fois, ça fait quand même, pour moi qui chante, là, c'est quand même, c'est difficile de, ça va être difficile pour moi de passer de ça ensuite. Et en studio, il n'y aura pas tout ça. Et peut-être qu'il suffira de fermer les yeux et de revoir tout ça. Mais pour moi, ces chansons, elles prennent une force parce qu'elles sont précisément chantées dans l'espace public, quoi. Et les gens, quand ils les découvrent dans l'espace public, c'est à ça qu'ils assistent, à une chanson, mais qui se loge au cœur d'un décor bien trop grand pour nous, comme disent les cow-boys de la chanson finale, nous comprenons ici. Et ça, je pense que ça leur donne une force qu'on ne retrouverait pas si elles étaient simplement enregistrées. Pour autant, on va quand même les enregistrer, ne serait-ce que pour les donner en souvenir aux gens qui aimeraient les garder avec eux.
Nous camperons ici à plusieurs reprises, et si vous avez envie de continuer l'aventure, eh bien vous suivrez le van de Sébastien Barrier jusqu'où il ira après. C'est un spectacle proposé par Les Tombées de la Nuit, accompagné par le Bureau des Paroles, et qui est dédié à un spectateur à partir de 10 ans. Alors, ce n'est plus une punition, hein, ni pour les enfants, ni pour Sébastien Barrier, que les enfants viennent au spectacle.
Venez, les enfants.
Donc venez, n'ayez pas peur. Tour de chant rock, bavard, en bivouac. Bon, bah voilà, c'est le résumé. Vous avez entendu la version un peu plus augmentée, peut-être dans la discussion qu'on a pu avoir avec Sébastien. Merci beaucoup d'être passé ici.
Merci beaucoup.
Et écoutez Stifford Mods, écoutez Cazet, et puis allez voir Sébastien, bien sûr. Merci.
Merci.
Changement d'ambiance et de spectacle maintenant, c'est Nadia qui nous propose cette rencontre avec trois des participants à ce spectacle ronde du chorégraphe Pierre Rigal. Elle a rencontré Mélanie Chartreux, musicienne et collaboratrice artistique, Maë Nérol, danseuse, et puis Gwenaël Drapeau, que vous retrouvez tous trois du côté du carré du Guesclin au Tabor pour deux représentations de Ronde, R.O.N.D.E.S, ce vendredi à 20h et puis aussi samedi à la même heure.
On a tous un jour fait une ronde à l'école pendant une fête de village lors d'un mariage. C'est un geste universel, presque archaïque, que l'on connaît sans forcément se demander ce qu'il raconte. Pierre Rigal, avec ce spectacle, Ronde, transforme cette forme très simple en une expérience chorégraphique, musicale et collective. C'est un spectacle donc qui questionne sur la ronde. Pourquoi la ronde ? Qu'est-ce que Pierre Rigal est allé chercher dans cette figure si universelle ? Pourquoi construire tout un spectacle à partir de ce geste très simple ?
Alors, l'idée première de la ronde, elle est venue à Pierre lors d'un stage avec des enfants. Donc il intervenait dans une école et il a regardé les enfants commencer à improviser et très naturellement ils ont fait une ronde et en leur donnant des contraintes un petit peu de jeu un peu plus précises, c'est-à-dire copier le même geste d'un camarade, etc. Et ben, il a vu naître en fait des espèces de figures de kaléidoscope à l'intérieur de la ronde et l'idée du spectacle est venue à ce moment-là. Pendant ce stage avec des enfants.
Quand on rentre dans cette ronde, est-ce qu'on oublie rapidement sa forme pour simplement danser ou est-ce que le fait de faire cercle change complètement votre manière d'être ensemble sur scène ?
Le fait d'être en cercle, c'est vrai que nos repères sont les autres. Le fait de tourner, on oublie vite les repères, l'espace autour. Et du coup, nos repères sont entre nous ou... entre nous. Et donc le collectif là prend toute sa place. On a vraiment besoin les uns des autres et
du regard.
Voilà, exactement.
Le titre, j'ai dit, c'est ronde, mais il est écrit d'une façon un petit peu particulière. Se détache le mot onde. Il y a deux points entre le R et le O au début et puis le S. Je me demandais si cette écriture était aussi une manière de dire que la ronde, elle ne dessine pas seulement un cercle. Mais aussi, elle produit quelque chose qui se propage, une énergie, un rythme, une émotion.
C'est tout à fait la bonne lecture du titre. Il a donc deux définitions possibles. Donc celui de la ronde, figure ancestrale, d'une façon de danser très ancienne, qui est aussi, très populaire et très répandue à travers la planète, donc très universelle. Et aussi, on a vu naître pendant les premières séances de répétition des figures qui ressemblaient vraiment à des ondes, comme des ondes de choc. Et évidemment, ces ondes se propagent à travers le public, qui est aussi amené à participer à la fin du spectacle, donc à venir prendre part et à fabriquer une nouvelle onde avec les danseurs à la fin.
Alors Maë, ce qui est frappant dans les spectacles de Pierre Rigal, c'est que le collectif n'est jamais simplement un décor autour des individus et des individualités des danseurs. On a souvent l'impression que le groupe devient une matière vivante avec sa propre respiration. À quel moment on cesse de penser à « je danse » pour faire sa danse?
Bonne question. En fait, ça se fait assez naturellement parce que dans le processus chorégraphique, on crée des choses où on s'appuie vraiment les uns aux autres. On a besoin des autres pour faire tel ou tel mouvement, que ce soit dans le poids ou dans les contrepoids ou dans les figures. On n'est pas du tout tout seul. En fait, on se dit jamais « je danse ». Dès le départ, c'est vraiment « on danse ».
Sur la musique, comme une force physique, dans beaucoup de spectacles, évidemment, de danse, la présence de la musique est un peu le pendant de la danse. On a l'impression ici quand même qu'elle agit comme une force physique. Alors déjà, vous êtes présent sur scène, musicien, on a la chance aussi d'avoir le musicien avec nous. Elle entraîne, elle aspire, elle déplace les corps. Quand vous composez ou quand vous jouez, est-ce que vous pensez d'abord à ce qu'on va entendre ou à ce que la musique va provoquer chez les danseurs et danseuses ?
La création musicale, Gwen pourra aussi répondre à la question avec moi en complément, mais la création musicale dans les spectacles de Pierre, elle est la plupart du temps, je dirais même quasiment tout le temps dans toutes les créations, elle est créée en même temps que le début des répétitions avec les danseurs. Donc les musiciens qui interviennent dans le spectacle sont là dès le premier jour. Et on a tout un processus d'improvisation avec les danseurs sur des matières et des contraintes que Pierre donne aux danseurs. Et nous, on est avec eux et on crée en direct la musique. Et ensuite, il y a une espèce de sélection qui est faite par rapport au tempo qui correspondra mieux à telle ou telle matière chorégraphique. Et à l'après, voilà, on fait une sélection des morceaux. Là, sur celui-ci, on en a gardé...
Il y a peut-être une dizaine de morceaux. Et puis... En tout, je pense qu'on avait bien une quarantaine d'idées de morceaux. Et puis voilà, la sélection s'est faite au fur et à mesure de la création, quelque part. Parce qu'en fait, on a pris, remis, enlevé, remis des compositions qu'on avait faites pour élaborer le tissu du spectacle et de la ronde globale. Du spectacle, de la représentation.
Et dans ce spectacle-là, plus précisément, le principe, c'était d'essayer d'avoir la contrainte aussi des... comme les danseurs et la matière chorégraphique est très... parfois, est aussi en boucle, c'est-à-dire que les danseurs reprennent souvent les mêmes phrases chorégraphiques ou les mêmes mouvements en boucle. Et bien, on a essayé de transposer cette contrainte-là aussi à la musique. Donc, quand on commence une représentation, avec Gwen, on n'a pas de musique. On n'a rien. On n'a que les instruments. Et en fait, on va boucler au fur et à mesure du spectacle. On va boucler chaque instrument, chaque voix. Et on va construire comme ça un espèce de millefeuille musical qui va accompagner aussi la matière chorégraphique et les danseurs. Donc, tout est fait en live durant les représentations. Et ça, c'est une contrainte qui a été... un peu difficile au début parce que parfois les boucles elles sont pas bien enregistrées et si la première est pas bonne il faut la refaire parce que toutes les autres vont pas être bonnes. Donc c'était une contrainte assez contraignante.
La boucle c'est une forme de ronde, donc il y a quand même une image à la ronde qui est encore là, la répétition du geste et de la musique qui est fabriquée de la même manière qu'une ronde, on peut dire ça comme ça un peu, voilà.
qui est beau avec une ronde, c'est qu'on la connaît tous. C'est un geste qu'on fait tous, on l'a dit, et c'est universel et on le fait tout petit. Et on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a fait. En fait, quand on est tout petit, on se met en ronde, mais on ne sait pas toujours pourquoi. C'est un espèce de jeu, mais à la fois un rituel. Est-ce que le spectacle cherche à retrouver quelque chose dans nos sociétés qu'on a un peu perdu, justement, ces gestes collectifs où on a besoin de se retrouver sans forcément expliquer ce qui fait sens?
Oui, je pense que c'est un des sujets importants de la pièce et qui se traduit très bien par la ronde. Et en studio, c'est vrai que la ronde, c'est quand même très, très riche comme forme. On a l'impression que c'est très fermé et en fait en studio on s'est rendu compte de la richesse de ce que ça pouvait évoquer autant dans le jeu, parce que Pierre est aussi un grand joueur, mais aussi dans ce que vous avez dit, le côté rituel, connexion, qu'est-ce que ça veut dire de se prendre les mains. En fait on s'est aussi questionné sur les choses simples de la ronde, comme vous dites on le fait sans trop savoir, et en fait on s'est rendu compte de ce que ça pouvait provoquer, de... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de se prendre la main, de se tenir, de se lâcher, de partir, de revenir. Et en fait, c'est infini, quoi. Donc, c'était un joli terrain de jeu.
Ici, vous allez jouer en Bretagne et la ronde et se prendre la main est un endroit assez, assez commun et un rituel très, très pratiqué en danse ici en Bretagne.
Eh bien, ça promet pour la fin du spectacle où les spectateurs sont invités à rejoindre les danseurs. J'ai hâte de voir les Bretons entrer dans la ronde.
On évoquait tout à l'heure la londe qui n'existe que parce qu'elle traverse un milieu. Et là, on pourrait imaginer que ce spectacle existe pleinement parce qu'il traverse aussi le public, on vient de l'évoquer. Autrement dit, est-ce que les spectateurs et spectatrices deviennent eux aussi, d'une certaine manière, les derniers interprètes de la pièce ?
Complètement, complètement. Et moi, pour ma part, c'est la première fois que je suis interprète dans une pièce qui est vraiment en lien direct avec le public. Et c'est quelque chose d'assez fort, en fait, parce que tout au long, nous, on sait ce qui se passe, et tout du long, on essaie d'emporter par des regards et par la musique aussi, il y a quelque chose qui se construit. Et les gens, en tout cas, jusqu'ici, sont assez volontaires, quoi. À la fin du spectacle, ils se lèvent très naturellement de leur siège tabouret, voilà. Et c'est quelque chose qui se vit aussi avec tout le monde, et on sort presque de la pièce. C'est un moment de vie et de jeu et de danse vraiment hyper collectif, et c'est trop bien, c'est assez beau.
Quand on regarde le parcours de Pierre Rigal, on retrouve souvent cette idée de partir d'une règle très simple, presque d'un principe physique ou mathématique, à rappeler qu'il a eu une vie scientifique avant. Je crois qu'il a fait des grandes études en mathématiques. Pour laisser émerger quelque chose de beaucoup plus vivant et imprévisible, est-ce que Ronde s'inscrit dans cette continuité ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est une nouvelle étape de son travail, Mélanie ?
Non, c'est vraiment la continuité de cette façon de travailler, en effet, qui part toujours d'une chose, comme vous le disiez, très simple. Et puis on va essayer d'aller chercher tout ce qui est possible autour de cette simplicité apparente, avec ce qui fait la richesse, c'est-à-dire de se rendre compte, comme l'expliquait Maë tout à l'heure, que au final, l'a priori qu'on a, c'est que c'est assez c'est très simple, et que du coup on va vite arriver au bout des matières chorégraphiques et des possibles. Et au final, on est tous surpris de ce qui a découlé de toute cette recherche autour de la ronde. C'est un peu le même principe, oui, que tous les autres spectacles de Pierre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, on part d'une idée ou d'une contrainte très simple. Je pense notamment à Press, qu'il a créé au Gate Theatre à Londres, qui était un tout petit plateau qui faisait, de mémoire, je sais pas, 6 mètres sur 6, même pas 6 mètres sur 6, même pas 5 mètres sur 5, enfin voilà. Et on lui a dit, est-ce que tu peux créer un spectacle ici ? Alors au début, il a fait ça va être dur. Puis après, il s'est dit, c'est une boîte. Je vais faire un spectacle dans une boîte. Donc là, voilà, l'idée de Press est née comme ça. Donc tous les spectacles de Pierre voient le jour un peu avec toujours une idée en apparence très simple.
Et d'une contrainte
Et d'une contrainte forte. C'est un peu les deux éléments et une musique toujours vivante. Ça, c'est aussi le troisième ingrédient des spectacles de Pierre. Thank you.
Depuis que vous avez dansé ronde, est-ce qu'il vous est arrivé de regarder autrement maintenant les rondes des enfants, les bals populaires, les farandoles? Est-ce que ça a un peu changé votre regard sur ce geste très ordinaire? Est-ce que vous le remarquez différemment? Vous le regardez différemment, Maë?
Oui, bah forcément, quand on a la tête dans un sujet, après on le voit partout et effectivement, notre regard il change. Mais du coup, moi j'ai eu l'occasion via Ronde et via Pierre aussi de faire des ateliers avec des enfants sur le thème de la Ronde aussi. Et les enfants ont plein d'idées et c'est riche aussi. Donc c'est sûr que, enfin avec les enfants et avec les adultes d'ailleurs, la Ronde elle est partout quand on regarde un peu.
Et pour finir, à toutes les deux, tous les trois même, si on parle souvent d'un spectacle qui embarque le public, là effectivement il va être embarqué réellement. Au sens premier, est-ce que vous avez déjà senti au cours d'une représentation un moment où la salle tout entière semblait respirer au même rythme que vous ?
Oui, il y a un moment dans le spectacle où moi je le ressens. Nous on appelle ça les pygmées. C'est un moment du spectacle. Alors je ne sais pas si ça tient à la chorégraphie des danseurs ou si c'est parce que la ronde est déjà bien installée, que les gens sont vraiment à l'intérieur avec nous. Mais c'est un moment du spectacle où je sens que si là on disait aux gens de venir, je pense qu'ils viendraient déjà avant la fin. Et voilà, je sais pas si c'est si ça tient au rythme de la musique ou à la musique ou un tout, c'est-à-dire voilà la musique et les danseurs, la danse. Et là ouais, je sens dans les regards des gens autour qui se disent j'aimerais bien venir tournoyer avec eux.
Et vous, Maë?
Moi, j'ai eu plein de moments différents selon les salles, selon les lieux aussi, c'est assez différent. Et comme la musique est en live, il y a aussi des moments un peu de magie, de musique qu'on n'avait pas eu la fois d'avant. Donc oui, moi, c'est pas forcément un seul moment, il y en a plusieurs selon les endroits, ouais.
Et Gwen?
Un moment de communion, il y a forcément la fin quand le public arrive. Hein, c'est toujours, on va dire, c'est pas la récompense, mais on sent vraiment les gens qui sont à fond. Et c'est vrai que quand on a la représentation, pendant la représentation, les gens sont très observateurs. Puis nous, on peut pas regarder les gens parce qu'on est totalement en échange avec les danseurs sur les gestes qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, même s'il y a des choses qui sont très marquées. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette communion à la fin, elle est chouette parce que les gens sont vraiment. Il y a même des gens, des fois, ouais. Ils sont dans des états d'excitation et de transe.
Et pour les danseurs, c'est un second souffle, quoi. On est au bout parce qu'on a tout donné pendant une heure.
Mais toi, tu sens qu'à la fin, t'es comme une star market.
Mais oui, en fait, on est déjà fatigué parce que la pièce est assez physique. Et les gens, ils nous redonnent second souffle et on a tout d'un coup une énergie qui revient.
Dernière question avant de vous quitter. Si quelqu'un vient voir Ronde sans connaître le travail de Pierre Rigal et n'a jamais vu aucune pièce, sans être aussi amateur de danse contemporaine, mais juste parce que le titre l'interroge. Qu'est-ce que vous diriez ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'il emporte avec lui, ce public ?
Déjà, je lui dirais c'est pas grave qu'il n'ait vu aucun spectacle de Pierre, puisque les spectacles de Pierre, il n'y en a aucun qui se ressemble. Parce qu'il ne travaille jamais avec les mêmes interprètes, et puis il part toujours dans des directions là où on ne l'attend pas forcément. Donc déjà, c'est pas grave. Et puis, je lui dirais de se laisser porter. Enfin, c'est vraiment un spectacle, je pense, qui permet de penser à rien et d'être vraiment là avec les danseurs et la musique. Il n'y a pas besoin ni de code, ni de rien du tout. C'est vraiment très instinctif.
Bye.
Un peu la même chose. Je dirais que il y a plein d'éléments qui font qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir des clés. La musique porte. C'est très visuel. Le travail de Pierre sur la ronde, c'est très visuel. Donc je dirais de se laisser hypnotiser, emporter et envoûter, quoi.
Moi, je dirais ça aussi. Se laisser aller sur. Avec la danse, la musique et sur une forme qui reste la ronde assez populaire, donc assez simple. C'est pas cérébral du tout, voilà. Il faut se laisser porter. J'allais dire populaire, simple.
Ronde, un spectacle de Pierre Rigal qui s'adresse véritablement à toutes et à tous. Retrouvez toutes les infos sur lestombeesdelanuit.com. gaycomédiefestival.com. Ça se joue au Carré du Guesclin ce vendredi et puis aussi samedi à partir de 20h. Pour terminer la saison de l'émission Le Grand Tout sur Canal B, un extrait d'un mix de DJ Hot Bodies à retrouver samedi 4 juillet pour terminer la soirée au Cloître Saint-Melaine. On se retrouvera quant à nous eh bien, en septembre pour de nouvelles émissions Le Grand Tout, mais d'ici là, bien sûr, des émissions de Boule Vanille vous seront proposées tout l'été du lundi au vendredi, 17h à 18h, l'émission estival de l'équipe de Canal B avec des émissions différentes de ce qu'on vous propose d'habitude dans l'année. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous retrouvez tous les contenus de l'émission Le Grand Tout sur canalb.fr et restez à l'écoute de Canal B sur le 94 MHz en FM et puis aussi en DAB+. Sans oublier, si vous partez en vacances à Dubrovnik, à Sarajevo ou peut-être Galway, oui, pourquoi pas Galway, l'Irlande, c'est bien. Eh bien, écoutez-nous sur canalb.fr. Ciao! My team only play big boy tracks.
Just praise on the instrument. Left, right, man, I'm finished.